L'espérance de la vie après la mort est basée sur les promesses de Dieu de ressusciter les morts. C'est un des enseignements de base qui se trouve dans la Bible. C'est sur quoi nous insistons dans notre examen des livres de l'Ancien Testament d'Amos et Abdias. Cette série de programmes d'études de la Bible vous est présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore.
Merci Thomas. C'est vrai, comme tu l'as indiqué, il se trouve dans la Bible beaucoup de promesses de Dieu qui n'auraient aucun sens si on les séparait du plan de Dieu qui assure de rendre la vie aux morts.
Si ceci est vrai quant à certaines promesses de Dieu, transmises par les tables par le prophète Amos, une grande partie de ces écrits sont adressés à la nation d'Israël en raison de ses péchés.
Il en est ainsi, Thomas, de la plupart des livres prophétiques de l'Ancien Testament.
Mais, Pierre, dans le troisième chapitre du livre d'Amos, au verset 2, se trouve une affirmation étrange. Amos déclare, de la part du Seigneur s'adressant à la nation d'Israël, « Je n'ai connu que vous d'entre toutes les familles de la terre ». Cela veut-il dire que Dieu ne s'intéressait pas aux autres nations ou ne les aimait pas ?
Non, Thomas, ce n'est pas cela. Dieu a révélé son amour pour toutes les nations quand il fit la promesse que par la semence d'Abraham, il bénirait toutes les familles de la terre. Les descendants naturels d'Abraham, c'est-à-dire la nation d'Israël, auraient pu devenir l'agent ou intermédiaire pour dispenser les bénédictions. Et à l'époque des anciens prophètes, cette nation eut l'occasion de prouver qu'elle était digne de remplir ce rôle particulier dans le plan de Dieu pour le salut d'un monde perdu.
La pensée de base est qu'Israël était à ce moment-là la seule nation reconnue par le Seigneur qui fut mise à l'épreuve pour devenir la semence de la promesse par laquelle le monde entier devait recevoir les bénédictions de santé et de vie.
C'est juste.
Mais Pierre, le plan de Dieu de bénir toutes les nations n'a-t-il pas été terriblement lent à mûrir? Tu as dit que Dieu aimait toutes les nations du passé, mais il a permis à toutes de mourir sans rien connaître de son amour. Dans ce cas, comment l'amour de Dieu peut-il jamais avoir de sens pour les païens des temps passés?
Thomas, cette question éclaire l'un des faits les plus merveilleux du plan de Dieu, parce que la mort n'enlève pas l'opportunité de connaître Dieu pour le servir et recevoir les bénédictions promises. Du point de vue de Dieu, la mort n'est qu'un long sommeil dont il y aura un réveil. Le fait que nous nous couchons le soir et que nous dormons toute la nuit ne change pas le plan général de notre vie, et la mort des êtres humains n'interrompt pas le plan d'amour de Dieu de leur offrir l'occasion d'une vie éternelle par la semence promise à Abraham, qui est en réalité le Messie annoncé.
En effet, si l'on réfléchit, les différentes familles ou nations de la terre qui vivaient au temps de l'ancêtre Abraham et à qui Dieu fit cette merveilleuse promesse de bénédiction sont mortes sans avoir eu l'occasion de les recevoir.
C'est vrai, Thomas. Et parmi eux se trouvaient les habitants de Sodome. Tu te souviens probablement que, dans notre examen de la prophétie d'Ézéchiel, nous avons trouvé une promesse de Dieu de rendre la vie aux sodomites. Lorsqu'ils seront ressuscités des morts, les bénédictions promises de Dieu seront mises à leur portée.
Autrement dit, il importe peu combien de temps s'écoule pour préparer et réaliser l'exécution du plan de salut de Dieu. En somme, personne ne sera privé de l'occasion d'atteindre la vie éternelle.
C'est juste. Et dans notre étude de la Bible, il est important de considérer les promesses de Dieu de ce point de vue. Quand Dieu a promis à Abraham que par sa postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies, les gens qui vivaient au jour d'Abraham en bénéficieront aussi bien que toutes les générations passées et futures de la famille humaine. Tous seront ressuscités des morts et tous auront l'occasion de profiter de l'abondance de la grâce de Dieu.
Et à mon avis, ce sera une manifestation merveilleuse de la sagesse, de la puissance et de l'amour de Dieu. Mais Pierre, pour en revenir à la prophétie d'Amos, dans le chapitre 9 au verset 11, il est cité une promesse du Seigneur disant « En ce temps-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, j'en réparerai les ruines ». Je le redresserai et je le rebâtirai comme il était autrefois aux jours anciens. Que veut dire exactement cette promesse?
Eh bien, remarque tout d'abord qu'il est dit « en ce jour-là ».
De quel jour s'agit-il, Pierre?
C'est le jour de Christ.
Qu'est-ce que le tabernacle de David qui sera relevé en ce jour-là?
C'est le symbole du royaume du Seigneur. Te souviens-tu que dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, verset 7, se trouve une promesse similaire? Dans cette promesse, le tabernacle de David est nommé le trône de David, qui, encore une fois, est un symbole du royaume de Christ. Faisant allusion au Christ et à son royaume, cette prophétie dit « pour accroître l'Empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affermir dans l'équité et dans la justice dès maintenant. Et pour toujours, le zèle de l'Éternel fera cela. »
Pierre, si je me souviens bien de notre revue de l'histoire d'Israël, relatée dans les livres des Chroniques 1 et 2, puis des Rois 1 et 2, nous avons appris que les rois d'Israël régnèrent comme les représentants de Dieu, que le trône sur lequel ils siégeaient représentait le trône de Dieu.
C'est juste, et nous avons appris par le livre d'Ézéchiel que cet arrangement cessa avec la chute de leur dernier roi Sédécias, qu'il n'y aurait plus de représentants jusqu'à la venue de celui à qui appartient le droit de régner.
Et Christ, le Messie promis, est celui à qui appartient le droit, n'est-ce pas?
Oui. Et voilà pourquoi les prophètes Amos et Ésaïe prophétisèrent que Jésus est celui qui, en ce jour-là, rebâtirait ce qui est écroulé. Cela ne veut pas dire que Jésus régnera sur Israël comme un être humain. C'est simplement la façon imagée d'assurer le règne du Seigneur sur Israël et qu'il y aurait une prospérité sans fin à son royaume.
Autrement dit, le royaume du Christ ne s'établira pas seulement pour Israël, mais étendra son influence sur toutes les nations.
C'est cela. Et cela s'accorde avec la prophétie d'Ésaïe, qui explique que le royaume du Christ sera établi sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire dominera sur toute la terre, donnant au peuple de toutes les nations l'occasion de recevoir les bénédictions de santé et de vie.
Ce qui est certainement une espérance glorieuse. Mais Pierre, la promesse que le trône de David serait établi, indique-t-elle que David lui-même sera rendu à la vie?
Eh bien, comme nous l'avons vu, le trône de David est en réalité le trône de Dieu, qui représente le gouvernement du Messie. Cependant, au jour du royaume du Christ, David sera ressuscité ainsi que les prophètes de l'Ancien Testament et, continuant notre examen des livres de la Bible, nous trouverons que le Seigneur a une place très importante dans son royaume pour ses anciens dignitaires.
Comme cela se doit, car ses anciens prophètes furent de très fidèles serviteurs du Seigneur. Pierre, je remarque que le livre suivant de l'Ancien Testament est celui d'Abdias.
En effet, et c'est le livre le plus court de l'Ancien Testament. Il n'a qu'un chapitre.
Mais oui, et le tout dernier verset de ce chapitre est très intéressant. Il dit « Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et la royauté sera à l'Éternel. » Pierre, que veut dire exactement ce texte? Qui sont par exemple les sauveurs qui monteront sur la montagne de Sion?
Eh bien, le principal d'entre ces libérateurs, c'est le Christ, le Messie de la promesse. Les autres sont ceux qui, par leur fidélité à suivre les traces de Christ, montrent qu'ils sont dignes de vivre et de régner avec lui dans son royaume.
Le mont de Sion de cette prophétie est-il un symbole du royaume de Christ?
Oui, le mont de Sion à Jérusalem était le temple représentant le siège de la domination divine sur la nation. Et à cause de cela, il est employé dans toutes les prophéties comme un symbole du royaume de Christ. Tu te souviens peut-être de la prophétie du psaume 2, où Jéhovah dit de son fils, le Christ Jésus, « J'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. »
Et Pierre, je me souviens aussi de cette promesse merveilleuse de la résurrection relatée dans le dernier verset du chapitre 35, où il est dit que « Ceux dont l'Éternel aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec un chant de triomphe et une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et les gémissements s'enfuiront. »
Cela montre clairement, Thomas, que la Sion antitypique, le royaume du Christ, sera une source de bénédiction vivifiante et de joie pour le peuple.
Cela est très évident, Pierre. Mais dans le texte que j'ai lu de la prophétie d'Abdias, que signifie « les libérateurs qui monteront sur le mont de Sion et jugeront le mont d'Ésaü »
Eh bien, tout d'abord, elle annonce le fait que le temps du royaume du Christ sera aussi une période d'épreuve et de jugement.
Mais tu n'expliques pas ce que le mont d'Ésaü veut dire.
Ésaü, le frère jumeau de Jacob, fut celui qui vendit son droit d'aînesse. On connaît ses descendants sous le nom d'Édomites, comme nation ou royaume. Les Édomites furent toujours des ennemis d'Israël, mais le fait qu'ils seront jugés dans le royaume de Christ indique qu'ils seront ressuscités et que les bénédictions du royaume leur seront aussi offertes.
Mais Pierre, cette prophétie dit qu'ils seront jugés, non bénis.
C'est très vrai. Mais quand dans le passé Dieu suscita des juges sur Israël, ce fut dans le dessein de les délivrer de leurs ennemis. Ainsi, quand les libérateurs du mont de Sion jugeront les Édomites, ressuscités, ce sera dans le dessein de les délivrer de leur grand ennemi, la mort. Et alors, tous ceux qui obéiront aux lois du royaume de Christ seront délivrés. Ainsi, c'est une autre promesse de Dieu qui ne peut être réalisée qu'au temps de la résurrection des morts. Ce fait est mis en évidence dans l'article « Le royaume de Dieu est victorieux ». Thomas, veux-tu parler de cette brochure à nos auditeurs ?
Avec plaisir, Pierre. Ainsi, cet article « Le royaume de Dieu est victorieux » est le troisième d'une série qui passe en revue toute la Bible. Celui-ci examine nombre de prophéties de l'Ancien Testament, éclairant vivement les importantes promesses de Dieu. Savez-vous que le livre de Daniel prévoit les inventions merveilleuses de nos jours et surtout les moyens rapides actuels de voyage? Savez-vous que le prophète Daniel a aussi annoncé la détresse présente des nations, l'appelant une époque de trouble telle qu'il n'y en eut jamais depuis que les nations existent? Savez-vous que le prophète Osée annonce que la mort et l'enfer seront détruits? Savez-vous que le prophète Joël prédit le rassemblement actuel du peuple juif en Terre Sainte? Savez-vous que le prophète Michée annonce le lieu de la naissance du Christ et l'établissement de son royaume mondial de justice? Ces prophéties sont constamment reliées aux conditions actuelles du monde remplies de craintes. Pour les mieux connaître, nous vous invitons à demander un exemplaire gratuit de la revue Aurore. Le royaume de Dieu est victorieux. Demandez le petit livre « Royaume ». Demandez simplement « Royaume ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette étude de la Bible vous a été présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore, en coopération avec les groupes d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous de nouveau la semaine prochaine. Dites-le à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.